hantise que ça s'allume pas. C'est juste là, bon. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Non, bonjour à toutes et à tous. En tout cas, c'est toujours un grand privilège pour moi de devoir partager la parole du Seigneur avec vous. Et comme Christophe et Claudie l'ont souligné tout à l'heure, une partie de l'Église est au haillon le jeûne. Et je me suis laissé dire que le thème de ce week-end porte sur être disciple de Jésus. Ah, je vais voir si ça marche déjà, ça. C'est le premier truc. Ah, ça a vibré. Et je vois mes trois points, c'est bon signe. Donc c'est bon. Merci, la régie. Oui, donc je me suis laissé dire que le thème de ce week-end porte sur être disciple de Jésus. Alors, pour garder une communion de thèmes, c'est naturellement que je me suis choisi le thème « Être disciple de Jésus » pour partager à peu près autour du même thème que ce qui se passe au haillon le jeûne aujourd'hui. Si c'est vrai que c'est le thème, parce que je n'ai pas vérifié, mais je crois que ça doit être le thème. Être disciple de Jésus, c'est une question centrale de notre foi. Avez-vous déjà eu l'impression de vivre votre foi au quotidien, avec parfois des difficultés? Je crois que le texte du psaume qui a été lu ce matin nous donne une idée. C'est, même dans la Bible, ces difficultés existent, sont là. Il m'est déjà arrivé, face aux défis de la vie et devant de nombreuses pages de la Bible, de me demander mais par où commencer? Que lire? Que faire dans la complexité du quotidien? Mais au cœur de cette complexité, Jésus nous donne dans Matthieu 7 un repère simple et puissant, la règle d'or. Ce n'est pas simplement un beau principe moral, c'est un résumé de l'attitude et de la transformation profonde que vit un vrai disciple de Jésus. Comprendre et vivre la règle d'or, c'est entrer dans le véritable discipula, c'est-à-dire apprendre à marcher chaque jour à la suite du Christ. Être disciple, ce n'est pas simplement adhérer à une église ou à une religion, ni se concentrer sur des versets, les mémoriser, se contenter d'assister à des cultes. Non, ce n'est pas cela, être disciple. Être disciple, c'est avoir une relation vivante avec Jésus, une relation qui transforme notre cœur, notre esprit et notre vie au quotidien. C'est aussi un cheminement, c'est un processus continu de croissance. Alors, je vous invite à prendre un moment de réflexion personnelle, à se poser des questions: où j'en suis dans ma marche de disciple? Suis-je encore engagé dans un processus de transformation ou est-ce que je stagne? C'est avec ces questions à l'esprit que nous allons aborder ce thème et lire la parole de Dieu et écouter ce que Jésus veut nous dire au travers de être disciple. J'ai retenu deux textes dans Matthieu 7 et Matthieu 28. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite encore à prier. Oui, Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ce rendez-vous que tu nous donnes. Merci parce que tu nous appelles à te suivre. non pas de loin, mais dans une relation vivante et profonde avec toi. Alors que nous allons ouvrir ta parole ce matin, je te prie de venir nous éclairer, éclairer nos cœurs, éclairer nos pensées. Et par ton Saint-Esprit, je te prie vraiment de nous rendre attentifs à ta voix et disposés à être transformés par toi. Je te prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La règle d'or, un style de vie concret. C'est dans Matthieu 7, au verset 12, la première partie qui nous le dit. J'ai pris dans la version Semeur. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Notre nature humaine a tendance à dire « Qu'est-ce que les autres peuvent faire pour moi ?» Mais Jésus ici renverse la perspective. Pense à ce que tu aimerais recevoir et commence par le donner. Si tu veux qu'on t'écoute, commence par écouter vraiment sans interrompre. Si tu désires le pardon, sois le premier à pardonner. Et si tu souhaites être encouragé dans la foi, prends l'initiative d'encourager une personne de la communauté par un mot, par un appel, un texto, ou prie pour lui. J'ai moi-même expérimenté combien de fois il est difficile d'écouter sans interrompre, mais j'ai vu la différence que cela peut apporter dans une relation. Une amie, une ancienne collègue de travail, traversait une période difficile. Elle est venue me voir et me parler. Ma première envie était de lui donner des conseils pour l'aider concrètement. Et je me sentais frustré de rester silencieux, impuissant à sa détresse. Pourtant, j'ai choisi de me taire et de simplement l'écouter à plusieurs reprises, même si cela n'était pas évident pour moi. Au fil de nos échanges, j'ai éprouvé à la fois un sentiment d'inquiétude, à l'idée de ne pas faire grand-chose, mais une très grande compassion pour cet ami. Et une fois ces difficultés passées, un jour, elle est venue me voir, elle m'a dit « Merci, ça m'a fait du bien de pouvoir parler sans être jugé. » Ce jour-là, j'ai compris que parfois, même si l'on se sent démuni, notre présence silencieuse et attentive peut être le plus beau soutien qu'on peut apporter à quelqu'un. Imaginez que vous ayez dans votre entourage proche quelqu'un qui vous irrite profondément. La règle d'or ne dit pas « évite-le ». Elle dit « donne-lui ce que toi, tu aimerais recevoir, un mot d'encouragement, un sourire sincère, une aide inattendue. » Ça, c'est un des aspects du disciplina accompli, du disciplina en action. Mais nous ne faisons pas cela pour manipuler l'autre ou pour obtenir son approbation. Nous le faisons parce que Jésus nous a aimés le premier, sans rien demander en retour. Être disciple, c'est adopter le style de vie de Jésus, un amour actif et concret. C'est vrai, cependant, il est important de reconnaître honnêtement nos limites humaines. Bien souvent, notre ancienne nature refait surface. Il nous arrive encore d'être égoïste, d'être impatient, de se centrer sur nous-mêmes. Nous aimerions incarner cet amour parfait, mais nous échouons fréquemment. Et face à ces difficultés, il est naturel de se demander comment persévérer dans cette démarche. Pour vivre cette vie, on ne peut pas compter uniquement que sur ses forces, ni sur sur notre volonté, mais sur la transformation du cœur que seul Dieu peut produire et opérer en nous. La transformation du cœur, c'est le moteur des disciplines. Nous le lisons dans la suite de ce verset 12 de Matthieu 7, qui dit ceci. Le premier disait, « Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. » Et la suite dit, « Car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. » Le disciplinant, ce n'est pas juste imiter Jésus de l'extérieur. C'est laisser Jésus vivre en nous par la puissance du Saint-Esprit. Le vrai problème, c'est notre cœur. Le vrai problème, c'est mon cœur. Ce qui nous empêche de vivre la règle d'or, ce n'est pas un manque d'information ou de bonne résolution, mais c'est l'état de notre cœur. On peut se dire, à partir d'aujourd'hui, je vais mieux aimer, je vais faire plus d'efforts. Mais c'est comme si on astiquait une voiture avec un moteur cassé. Elle a l'air propre, mais elle ne démarrera jamais. Ce qu'il nous faut, c'est une transformation profonde qui commence au cœur. Pas seulement un changement de comportement. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu non seulement pour nous montrer le chemin, mais aussi pour nous sauver de notre incapacité à le suivre. À la croix, il a subi le pire traitement que les humains puissent infliger. Et pourtant, il a répondu par l'amour. Il a fait tout cela parce que nous étions incapables de faire. Il a fait tout cela pour nous rendre capables de faire comme lui. Et quand nous comprenons vraiment la profondeur de l'amour de Jésus pour nous à la croix, notre cœur est touché et transformé. Ce n'est plus une contrainte que nous vivons, une contrainte suivre des règles, mais c'est une réponse à l'amour de Jésus que nous avons compris. C'est une transformation qui s'opère par le Saint-Esprit. Dans Jean 15, verset 5, Jésus dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Les fruits du discipulat ne viennent pas de nos efforts, mais de la vie de Jésus qui coule en nous par l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous fait voir les fruits dans nos vies, comme il est écrit dans Galates 5, versets 22-23. Et ces fruits, j'aime bien, sont l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Mais peut-être aujourd'hui, tu ne connais pas encore personnellement Jésus. Tu réalises que jusqu'ici, tu as vécu une vie en s'appuyant sur ta propre force, tes propres forces, mais que le moteur de ta vie est cassé. Jésus t'invite à venir à lui confier ton cœur. Il veut te pardonner, te donner une vie nouvelle et commencer cette transformation intérieure en toi. Aujourd'hui encore, tu peux lui dire, « Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie, pardonne mes péchés, transforme mon cœur et deviens mon Seigneur, mon Sauveur. » Je crois que c'est la première étape du discipulat. Lui donner ta vie et le suivre. et pour ceux qui ont déjà donné leur vie à Christ, cette transformation commence par une décision quotidienne. Renoncer à soi-même pour placer Jésus au centre. C'est dire et vivre chaque jour comme dans Marc 8, verset 34, « Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. » Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de vivre pleinement cette transformation intérieure? Cette transformation intérieure nous conduit à un choix. Jésus nous invite à une décision radicale. Et c'est la suite de ce texte de Matthieu 7 au verset 12. La suite nous dit, dans les versets 13 à 14, deux chemins et une décision. Nous lisons la suite dans la suite de « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et spacieuse la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mène à la vie, qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. » Imaginez une foule immense qui se dirige joyeusement vers un concert. Le chemin est large, tout le monde y va, l'ambiance est festive. Mais vous, vous savez que ce chemin mène à un effondrement fatal. Et sur un côté, une petite porte discrète mène à la vie. Pour l'emprunter, il faut aller à contre-courant, renoncer à la foule, laisser certaines choses derrière soi. C'est l'image du discipulat. Dans notre quotidien, cela peut signifier choisir l'honnêteté quand tout le monde triche, même si cela nous coûte une promotion ou cela nous coûte la reconnaissance des autres. Cela signifie pardonner alors que la rancune et l'amertume semblent être faciles à nourrir. Cela peut signifier refuser la corruption, même quand tout le monde le fait et personne ne te verrait pas. Cela peut signifier aimer et servir quelqu'un qui est différent de toi, alors que la société nous pousse à rester dans le cercle confortable. Cela peut signifier dire la vérité avec amour, plutôt que de se taire pour éviter des conflits. Cela peut vouloir signifier prendre le temps pour écouter et accompagner une personne en difficulté, même si cela coûte du temps et un sacrifice personnel. Cela peut signifier rester fidèle à ton conjoint, même quand la culture autour glorifie l'infidélité ou la légèreté dans les relations. Cela peut signifier placer ta confiance en Dieu, plutôt que dans l'argent, dans la sécurité matérielle, même quand l'avenir semble incertain. Parfois, le chemin de Jésus implique des choix difficiles. Des choix qui vont à contre-courant de la majorité. Mais ces choix sont porteurs d'une paix, une vraie paix intérieure et d'un sens profond à nos vies. Deux chemins, le chemin large, facile, confortable, populaire. On y garde son ego, son péché, son autonomie, mais il mène à la destruction. La destruction dont il parle Jésus ici n'est pas seulement une vie difficile sur cette terre, mais c'est la séparation d'avec Dieu. Une vie sans la présence ni l'amour de Dieu. Le chemin étroit, c'est celui de Jésus. Il demande de laisser derrière soi l'orgueil, le péché et de se soumettre à la seigneurie, à la seigneurie du, de Jésus. Ce chemin, il est exigeant, mais il conduit à la vraie vie. La vraie vie dont Jésus parle ici n'est pas simplement une réussite extérieure ou une réussite dans ce monde, mais une relation restaurée avec Dieu, dès maintenant et pour l'éternité. Jésus est la porte. Jésus ne dit pas simplement « voici la porte ». Il dit dans Jean 10, verset 9, « je suis la porte ». Et dans Jean 14, verset 6, il ajoute « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Suivre Jésus, c'est marcher avec lui, pas suivre des règles. Marcher avec lui, c'est dialoguer avec lui dans la prière. C'est s'appuyer sur sa présence au quotidien et découvrir sa volonté dans la Bible. Vivre une relation réelle et vivante avec lui transforme toute notre existence et donne un sens nouveau à nos voies. Cela donne aussi un sens nouveau à nos choix. Un dernier point que j'aimerais souligner, c'est dans Matthieu 28, du verset 19 à 20, qui nous parle aussi du discipulat et qui nous le présente comme une mission et une communauté. C'est le discipulat en mission et en communauté. Le discipulat n'est pas une aventure solitaire. Jésus nous appelle à vivre notre foi en mission et en communauté. Et ce texte, le contexte, c'est celui de la résurrection, une fois qu'il est Jésus revenu à la vie, à sa résurrection, après sa résurrection, il a donné à ses disciples ces paroles bien connues. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans ces versets, on peut voir deux dimensions inséparables du discipulat, d'être disciple de Christ. C'est la mission et la communauté. La mission, aller et faire des disciples, et la communauté, grandir et vivre ensemble dans la foi. Quelques mots sur la dimension mission. Nous sommes appelés à partager l'Évangile, à accompagner ceux qui répondent à l'appel de Jésus, à les baptiser, à les former selon son enseignement. Un vrai disciple devient donc un disciple qui forme des disciples, qui forme des disciples, qui forme des disciples, et ça peut durer longtemps. Concrètement, cela peut se vivre de manière simple et naturelle. C'est inviter un ami à une rencontre, à un culte. C'est partager son témoignage le plus simplement possible dans une conversation, dire ce que la joie ou ce que j'ai, ce que Jésus fait dans ma vie, dans mes événements, le dire tout simplement, pas chercher à convaincre, dire « waouh, Christ est cela pour moi. Christ a fait cela dans ma vie », le dire tout simplement. Accompagner quelqu'un dans la lecture de la parole ou prier avec une personne dans ses joies et aussi dans ses luttes. Chacun peut être un témoin vivant de l'Évangile à son rythme et avec le don que Dieu lui a accordé. Pourtant, la mission n'est pas toujours facile. La peur du regard des autres. L'envie de devoir expliquer peut-être quelque chose qui n'est pas très clair en moi. La crainte de ne pas savoir quoi dire. Le manque de temps où les déceptions peuvent freiner nos élans. Mais Jésus ne nous laisse jamais seuls dans cette tâche. J'aime bien la suite, la fin de ce verset. Il promet, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Face à l'hésitation, ou à la fatigue, ou à nos doutes, Jésus nous appelle à la persévérance. Chaque petit pas compte. Même lorsqu'il semble insignifiant, il est important. Maintenant, quelques mots sur la dimension communautaire. Le discipulat ne se vit pas tout seul. Il se vit aussi au sein de l'Église, dans une relation fraternelle qui nous aide à grandir et à rester connectés à Jésus. Dans notre communauté, il existe de nombreuses opportunités pour cela. Il y a des groupes de quartier ou des groupes de maison, il y en a en tout 8. Des rencontres spécifiques comme les groupes de jeunes, les soirées louanges, les soirées filles ou les groupes des aînés. Il y a des temps de prière collectifs en distanciel ou en présentiel dans l'église. Il y a même des rencontres plus informelles entre des personnes aussi de la communauté qui se rencontrent pour partager la parole et vivre une communion fraternelle. Mais attention, l'essentiel n'est pas d'en cocher une case d'une activité et participer à l'activité. Ce qui compte, c'est de trouver une ou deux relations authentiques où tu peux être encouragé, où tu peux relever les autres et marcher ensemble sur le chemin de Christ. C'est grandir ensemble dans la foi. La vie communautaire, c'est prier ensemble, offrir son aide dans les moments difficiles, accueillir une nouvelle personne ou soutenir quelqu'un dans l'épreuve. C'est vrai, là aussi, les obstacles ne manquent pas. Même dans l'Église. Différence de caractère, incompréhension, des blessures du passé ou simplement le manque de disponibilité peuvent décourager. Mais c'est précisément dans la persévérance, le pardon et l'écoute que la communauté va trouver sa force. Vous avez peut-être peur de ne pas être à la hauteur. Un sentiment d'isolement, de lassitude, de manque de temps ou d'incompréhension. Oui, ces obstacles sont réels. Mais Jésus connaît nos faiblesses et nous invite à la confiance. Pour avancer malgré les difficultés, il nous encourage à lui confier nos peurs dans la prière, à demander de l'aide de l'Esprit Saint pour persévérer. Seul, on n'y arrivera pas. Oser demander le soutien à un frère ou à une sœur, ne pas s'isoler, mais chercher la communion. C'est dans la persévérance humble, appuyé sur la grâce de Dieu, que nous découvrirons la joie de porter des fruits, même dans le cœur de nos tempêtes. Admirer Jésus est facile. On peut reconnaître ses propres sagesses, celle du monde, la beauté de sa vie, si ma vie elle est belle ou elle est triste, mais rester spectateur. L'engagement, lui, demande un pas de plus. Laisser Jésus transformer nos choix, nos relations et nos priorités. Aujourd'hui, tu peux encore faire ce pas. Tu as un choix à faire. soit rester dans l'admiration, regarder de loin, ou entrer dans l'aventure du discipulat. Pour t'aider à passer à l'action, voici quelques questions et suggestions. À qui pourrais-tu partager une parole d'encouragement ou ton témoignage cette semaine? Quel petit service concret pourrais-tu rendre à quelqu'un de la communauté? As-tu besoin de demander pardon ou d'offrir ton aide à un frère ou une sœur? Peux-tu prendre un moment pour prier pour quelqu'un ou rejoindre un groupe pour grandir dans la foi? Quel sera ton prochain pas, même tout simple, pour suivre Jésus de plus près et refléter son amour autour de toi? N'attends pas d'être prêt ou parfait. Le Christ t'appelle tel que tu es, avec tes forces et tes fragilités, pour une mission unique qui ne ressemble à aucune autre mission. Je vous invite à prier. Dieu notre Père, merci pour ta parole et pour ton amour. Nous t'adorons parce que tu es vie et tu es la source de toute vie. Nous te louons parce que tu es sauveur et tu nous sauves et tu nous libères. Oui Seigneur, merci pour ton amour à être tes disciples et pour la mission que tu nous confies. Merci pour ta promesse d'être avec nous dans cette mission. Je te prie de nous remplir de ton Esprit Saint, afin que nous puissions te suivre fidèlement, que ce soit dans notre famille, au travail, dans notre quartier, partout où tu nous places. Oui, Père, aide-nous à vivre la règle d'or, en étant attentifs aux autres, à nos proches, en pardonnant à ceux qui nous ont blessés et en tendant la main à ceux qui sont isolés. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où l'orgueil est notre a pris le devant, Seigneur. Que nos vies, individuellement ou ensemble en communauté, Père, soient un témoignage vivant de ta grâce et de ta vérité. Et par des gestes vraiment concrets, donne-nous de vivre ton amour avec authenticité chaque jour. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen.